Jeunesse School Radio.
Salut tout le monde, c'est Mathieu et l'équipe de la S-School Radio. On se retrouve aujourd'hui pour la 43e hebdo. Aujourd'hui, beaucoup d'informations et de chroniques, donc je vais aller droit au but. Tout d'abord, les actualités du collège et du monde. Ensuite, une chronique sur le spectacle du collège. Ensuite, une pause musicale. Dans la deuxième partie d'émission, beaucoup d'interviews. Une pour Madame Coquilla, une pour le journaliste national Léo Teicher de France Inter, et une sur Monsieur Morin, le directeur du CPO de Vittel. Une deuxième pause musicale. Tout de suite, Chirne et Lilia nous présentent les actus du collège.
On va voir ensemble l'actu du collège avec Lilia.
Salut, ça gaze ?
Wal.
Quelle blague, Lilia !
Merci, merci.
Bon, bref, félicitations aux élèves des clubs chorale, théâtre, danseur et infographie pour ce spectacle de fin d'année qui a été superbe.
Qui a plu aux petits et aux grandes personnes.
Vous en saurez plus tout à l'heure avec Éloane qui a interviewé les élèves et professeurs.
Ça y est, le brevet est lancé pour les troisièmes.
Oui, les élèves de troisième ont passé leur oral mercredi 14 juin. On espère de tout cœur que cela s'est bien passé. Si vous ne le savez pas,
nous serons sur place à Vittel.
Pourquoi ?
Le Tour de France ! Vous pourrez écouter l'interview de Monsieur Morin, organisateur du Tour de France à Vittel, un peu plus tard dans notre hebdo. Restez à l'écoute.
Salut pour une prochaine actu.
Merci beaucoup Lilia et Chérine pour les actus du collège. Tout de suite, on enchaîne avec les actus du monde par Antoine.
Le Tour du monde en actu par Antoine.
Commençons légèrement avec le bac 2017.
Jeudi 15 juin, le début des épreuves du baccalauréat. C'était les épreuves de philosophie, technologie et français pour les candidats. Le vendredi 16 juin, c'était le tour des épreuves d'histoire-géographie et de mathématiques. Après un week-end de repos, les candidats ont enchaîné avec les épreuves de langue vivante, une et de sciences économiques et sociales.
Plus gravement, il y a eu une tour en feu à Londres ?
Dans la nuit du mardi à mercredi 14 juin à 1h du matin, la tour Grenfell, dans un quartier populaire de Londres, a pris feu. Il s'agirait d'un réfrigérateur qui aurait explosé. Le feu s'est répandu rapidement à tous les étages, piégeant les nombreux habitants. Le bilan est très lourd puisqu'on dénombre au moins 30 morts et 24 blessés.
L'affaire Grégory, vieille de plus de 30 ans, a connu un rebondissement récemment.
L'affaire Grégory est une affaire judiciaire datant de 1985 et toujours non résolue à l'heure actuelle. Pour rappel, le petit Grégory a été retrouvé noyé ligoté à Haut-Monzay, près de Bruyères, à quelques kilomètres d'Épinal. L'affaire a été relancée le 15 juin dernier après que le parquet général a requis une mise en examen pour séquestration à l'encontre du grand-oncle du petit Grégory, Marcel Jalkov, ainsi qu'à l'encontre de la grande-tante de Grégory, inculpée d'enlèvement et de séquestration suivie de mort.
Merci beaucoup Antoine et Chérine et Lilia précédemment pour nous avoir présenté toutes les actualités de la semaine dernière.
S-School Radio, la radio qui vibre sur les réseaux sociaux.
Tout de suite, Éloane va nous présenter le spectacle du collège de cette année qui se nomme Mer, Voyage, Capitaine.
Ouais, donc bonjour, le vendredi 9 juin 2017 au soir a eu lieu le spectacle de fin d'année des élèves du collège. Le thème de cette année était « Mer, voyage, capitaine ». Ce spectacle présenté le 9 juin et 11 juin à l'Alhambra à Vittel a réuni l'atelier chorale, les ateliers théâtre ainsi que les élèves danseurs. L'atelier infographie a également participé à ce spectacle en réalisant, comme chaque année, un court-métrage en animation. J'ai pu interviewer des professeurs en charge de cet atelier, de ces ateliers et des élèves y participant. Madame Royer, professeure de musique et responsable de l'atelier chorale, nous explique son rôle et ses impressions sur ce spectacle.
Quel était votre rôle dans ce spectacle cette année ?
J'avais comme d'habitude le rôle du chef de chœur.
Que vous avez pris très à cœur.
Eh oui, parce que pour moi, chef de chœur, c'est avec CH pour les chanteurs et puis sans le H pour tout ce qui est le petit cœur qui bat dans chacun de ceux qui chantent.
Cette année a été longue pour préparer ce spectacle. En êtes-vous fier ?
Oui, d'autant plus que c'est jamais gagné. Et quand la magie opère, on est très 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 content.
ce spectacle qui s'est déroulé ce soir. Vous a-t-il convenu?
Ah, je pense qu'ils ont été très loin dans le mieux. Très, très loin. Ils ont mis la pêche, ils ont été attentifs, ils ont mis du cœur, ils ont allumé les phares, comme on dit quand on leur demande d'ouvrir les yeux et d'y mettre de l'émotion. Et je crois qu'ils étaient vraiment là. Et ils ont eu plaisir et ils l'ont montré.
Avez-vous un mot à dire pour des CM2 qui seraient intéressés par la chorale l'année prochaine?
Eh ben, il y a des petites places qui se libèrent avec regret par les grands troisièmes qui s'en vont. Et tu as vu, il y avait de l'émotion dans leur départ. Donc, on accueille les bras grands ouverts, les petits nouveaux.
Monsieur Chardonnay, le mari de Madame Royer, qui il nous explique son rôle.
Alors, Daniel Chardonnay, le mari de Madame Royer.
D'accord. Avez-vous déjà assisté à une répétition de ce spectacle?
Alors, oui, pas mal. J'ai assisté à pas mal de répétitions. Comme toutes les années. Je suis là un peu pour aider, pour motiver les enfants, pour faire un auditeur, hein, parce que ça les motive quand il y a quelqu'un d'autre qui sont là. Quoi.
Et vous allez regarder le spectacle là?
Alors je l'ai déjà vu 3 fois et je vais le revoir encore une fois et encore une autre fois dimanche. Je le connais presque par cœur, mais il est bien, il est très bien.
Vous pensez que ça va bien se passer?
Oui, c'est très bien. Il y a cet après-midi, c'était vraiment super. Il y a les micros n'ont pas chuinté comme ça fait souvent. Hein. Souvent, il y a des petits chuintements. Là, il n'y a pas eu. Les chanteurs, ils étaient bien. Les théâtreux, ils étaient bien. La danse était bien. Tout était super.
Madame Bogard, responsable du deuxième groupe de l'atelier théâtre, nous explique tout le travail mené dans son atelier.
Alors, je suis Madame Bogard, je suis professeure de français et j'anime un des deux ateliers de théâtre qui a participé à ce spectacle de fin d'année.
D'accord. Combien de temps avez-vous travaillé sur ce spectacle?
Eh bien, nous avons travaillé toute l'année. On travaille dans l'objectif de la représentation, de monter sur scène, prendre confiance en soi, voilà. Disons, on a fait un petit peu de langue des signes, un petit peu de beaucoup de travail corporel. Beaucoup de on a essayé de trouver une place un peu différente de ce qui pouvait être proposé traditionnellement dans le cadre de l'atelier théâtre. Donc j'avais des débutants, des élèves qui n'étaient encore jamais montés sur scène, et c'est vrai que dès le début de l'année, il y a cet horizon, de cette perspective du spectacle de fin d'année. Donc finalement, on le travaille toute l'année.
D'accord. Et qu'avez-vous pensé de ce spectacle?
J'en suis très satisfaite. Je trouve que c'est toujours un très très beau moment à partager pour nous, avec les élèves, avec toute l'équipe. Et je suis particulièrement fière des élèves, de l'ensemble des élèves, quel que soit l'atelier auquel chacun a participé. Et effectivement, particulièrement aussi de ceux qui n'étaient encore jamais montés sur scène et qui se sont fort bien débrouillés.
Maintenant, passons au club L'Infographie, géré par Monsieur Millet.
Quel est votre rôle dans ce spectacle?
Je fais partie du spectacle à travers l'atelier Infographie. C'est la partie audiovisuelle du spectacle, avec une projection vidéo sur grand écran.
Est-ce que la répétition de cet après-midi s'est bien passée?
Alors, cet après-midi, c'est pas vraiment une répétition, mais oui, ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'on a... Alors, à décharge, on a toujours tendance à dire que le vendredi après-midi, c'est le moment où, pour la première fois, tout le monde est réuni, puisque pour les autres, les réelles répétitions, je ne suis pas présent.
D'accord. Est-ce que vous êtes autant stressé que les élèves?
Non, parce que moi, mon travail est fait. Mes élèves ont terminé de travailler. Donc théoriquement, quand j'arrive au spectacle, si je suis stressé, ça veut dire que je n'ai pas fini mon travail. Donc il ne vaut mieux pas que je sois stressé. Là, ce n'est pas le cas.
Et dernière question, comment sentez-vous le spectacle qui va se dérouler?
Alors, étant donné que cet après-midi, ça s'est vraiment très bien passé, je pense que on peut pronostiquer sur un sans faute ce soir.
N'oublions pas le palais des danseurs, groupe géré par Madame Loutet et Monsieur Bezot. C'est ce dernier que nous allons écouter.
Monsieur Bezot, je suis professeur de PS au Collège de Vittel.
Quel a été votre rôle dans ce spectacle cette année?
Alors, avec Madame Loutet, on a mis en place 2 chorégraphies de danse une chorégraphie avec des filles, une chorégraphie avec des garçons.
Justement, vous avez collaboré avec Madame Lotet, le travail était réparti?
Oui, en fait, les filles, ce sont des demoiselles des classes de Madame Lotet, les garçons, ce sont mes élèves à moi. Mais le vendredi après-midi, on a pris 3 vendredis après-midi pour travailler ensemble sur les chorégraphies où on a pu travailler, améliorer un petit peu les prestations qu'avaient fait nos danseurs durant leur cycle de danse.
Vous avez mis combien de temps pour organiser tout ça?
Alors, ils ont fait déjà une première chorégraphie durant leur cycle en cinquième. Donc, durant le cycle, ça a duré 10-15 heures. Et ensuite, on est parti de ce qu'ils avaient fait pendant leur cycle de cinquième, leur évaluation. Et on a pris 3 vendredis après-midi, 2 heures, donc à peu près 5-6 heures en plus, des 10-15 heures, donc on va dire une vingtaine d'heures pour faire ça, pour faire leur prestation.
D'accord. Et est-ce que la prestation à ce spectacle vous a convenu?
Ah oui, c'était très très bien. Les filles ont été très très propres, super, très jolies, très gracieuses. Enfin, ce sont des filles qui sont à la gym, donc il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Et on était très contents d'avoir un groupe de garçons pour présenter leur enchaînement. Ça nous a vraiment... on était ravis d'avoir des garçons en danse.
Maintenant, on va écouter Monsieur Fenoul qui a construit le bateau qui était sur la scène.
Il faudrait que tu me fabriques un bateau. J'ai dit, Brigitte, fabriquer un bateau, quoi? Ben, j'ai dit, il me faut un plan, il me faut un truc comme ça. Donc, j'ai dit, alors, attends, ce que je vais faire, je vais aller voir Ludo, ou CDI. On va regarder sur ordinateur, on va aller tirer des plans de bateau, de trucs comme ça. Et puis, à partir de là, tu me diras ce qui va le mieux en bateau. On y va. Et puis, donc, on a tiré un truc qui était comme ça, avec des mâts, avec des machins comme ça, donc, qui était prévu. Elle me l'a tiré sur papier. Et puis, elle m'a dit, il faudrait que le devant soit cassé. Alors, je la regarde avec des billes comme ça, mais je dis, le devant cassé. Il faudrait qu'à un certain moment, dans le spectacle, le devant se casse. Ben, j'ai dit, dis donc, c'est pas du facile que tu me demandes. Alors, j'ai commencé à dessiner le bateau qu'elle avait choisi. On a supprimé l'EMA parce que l'EMA serait arrivé devant un élève, devant la photo, il aurait eu une barre, ça faisait pas trop bien. Donc on a, normalement, il y avait l'EMA de prévu, on les a supprimés. Et puis, donc il a fallu que je cherche le système pour le casser. Et j'ai trouvé un deuxième morceau de contreplaqué qui bascule sur un pivot. Et puis déclenché par un mécanisme que j'ai fabriqué derrière, tiré par une petite ficelle discrète. Et ça donne ça. Donc, quand j'ai les peintures, j'ai récupéré des peintures que j'avais au collège, des restes de peintures, des machins comme ça que j'ai pris. J'ai harmonisé à peu près les peintures, qui s'accordent pour moi à peu près bien. Et puis, il manquait quelque chose quand même devant. Il manquait l'encre de marine. Et puis donc, l'encre de marine, je l'ai redessinée. Je l'ai fait dans les temps, le bateau était préparé. Et il manquait quand même une bouée de secours. Alors, il a fallu que je récupère une vieille chambre à air. J'ai mis de la mousse de polyuréthane dedans, que j'ai laissé un peu durcir. Bon, elle n'est pas tout à fait... Je l'ai peinte et je l'ai entourée d'une corde. Moi, ça me semblait assez logique. Oui. Et puis, je l'ai accroché ce matin.
Combien de temps pour le réaliser?
Alors, disons qu'entre les couches de peinture, m'arrêtais pas qu'à ça. J'ai mis une quinzaine de jours. Mais pas uniquement sur le bateau. J'avais quand même de l'autre travail à faire dans le collège. Donc, quand je revenais que la peinture était sèche, je redonnais une deuxième couche parce qu'il fallait quand même que je recouvre... La peinture aux collègues, j'ai dit il manque quelque chose. Et on a regardé sur internet, il manquait une ligne de flottaison. On a redessiné après avec des vagues bleues. Voilà. Et puis dans la finalité, ça a donné ça. Enfin, tout le monde était content. Le petit drapeau a été fait après, à la dernière minute, pour meubler un peu.
D'accord. Voilà. C'est une passion pour vous de créer des.
Ben, moi je suis peintre de métier, en bâtiment.
Ah. Ok, donc merci d'avoir écouté. Voilà pour ce qui est de l'équipe en charge de l'organisation du spectacle. Passons désormais aux élèves. Je vais commencer par ce groupe d'élèves au club infographique qui nous explique en quoi a consisté leur travail. J'ai entendu dire que vous faisiez partie de l'infographie.
Ouais. Oui.
Qu'est-ce que vous avez réalisé dans ce club?
Une vidéo assez longue par rapport aux années précédentes, mais en général, c'est tout des fichiers qui sont mis les uns sur les autres.
Et des poissons, des requins, des crabes, des algues, un peu de tout.
Bah oui, après oui. Moi je faisais plus des poissons que les autres, après voilà.
Vous pensez avoir passé combien de temps sur ce projet?
Une bonne année?
Non, moi je dirais plus en heures, si on passe 2 heures par semaine, donc ça fait à peu près 24 heures dessus.
Vous avez assisté au spectacle cet après-midi?
Oui. Il était très bien.
Vous en avez pensé quoi?
Bah moi c'était génial.
Oui.
Pour la première fois quand j'en vois un.
Et vous allez y assister?
Bah oui, parce que en fait, il se trouve qu'on monte sur scène à la fin du spectacle.
En fin du spectacle, nous monterons sur scène pour chanter Titanic Hello.
Vous avez eu des problèmes sur la réalisation du film?
Oui, moi oui.
Moi oui, beaucoup. Quoi.
J'ai eu... sur mon ordinateur, bah, y a eu un moment que tout s'était effacé, j'ai dû tout recommencer. Et après, voilà, j'ai assez de difficultés.
De tout refaire.
Après, il y avait aussi des pertes de fichiers dans tous les, de partout, mais aussi des choses supprimées dans les fichiers, des enregistrements mal faits, ce qui peut tout à fait arriver. Donc voilà, c'était un petit peu difficile à maîtriser tout ça.
Je vais compter difficile pour les élèves, mais l'animation finale qui était projetée était très réussie. Écoutons désormais les danseuses très détendues. Quels sont vos rôles dans ce spectacle?
On fait la danse.
Nous sommes danseuses.
Comment s'est passé le spectacle de cet après-midi?
Bah, plutôt bien.
Très très bien.
Très très bien.
Mais ta gueule, ouais,
il n'y a pas eu de loupé, c'était nickel.
Comment sentez-vous le spectacle qui va se dérouler?
Bah, bien.
Poseille, on est tranquille.
J'ai pu apprendre à la fin du spectacle que Manon avait rejoint l'atelier chorale seulement un mois avant le spectacle et elle s'en sort plutôt bien. Félicitations à elle. Est-ce qu'on pourrait avoir son interview?
Je m'appelle Manon, j'ai 14 ans et puis donc je fais chorale et théâtre.
Quel est ton rôle dans ce spectacle?
Alors je fais la femme de Christophe Colomb et je joue Noé et je chante un peu aussi avec la chorale et je lis un poème.
Comment s'est passé le spectacle de cet après-midi?
Ça s'est très très bien passé, mais comme on considère ça comme une grande répète générale, on a loupé 2-3 répliques, c'est juste une grande répétition générale en réel, et puis ça s'est plutôt bien passé. On avait un public plutôt particulier, c'est pas comme des adultes, mais on arrive à faire avec, et puis les petits défauts, on les corrige. Non, ça c'est franchement pour un premier spectacle, ça s'est plutôt bien passé, je trouve.
Et tu penses que ça va se passer comment pour celui-là?
Je pense que celui-là va bien se passer aussi. Il y a aucune raison que ça se passe mal. C'est bien, quoi. Ça va bien se passer. Je pense. On s'est préparé. On a mis un an. On a fait des répétitions générales. Non, ça devrait bien se passer, oui.
Donc maintenant, Cyrielle, qui fait partie de l'atelier théâtre, elle nous explique son rôle et nous livre ses impressions.
Je suis Cyrielle Henry. Je fais partie du théâtre de Madame Bogard.
Quel est ton rôle dans ce spectacle?
Fait un poisson dans une scène, un personnage, enfin de...
Comment s'est passé cet après-midi, enfin ce spectacle?
Au début stressant, mais ça allait.
Et comment tu le sens, là, ce spectacle?
Ça va passer, mais j'ai un peu peur, parce que c'est...
D'accord.
Et encore, dimanche, ça va être pire, il y aura mes parents.
Écoutons d'autres élèves participants à l'atelier théâtre, Adrien et Mathéo, très motivés.
Quels sont vos rôles dans ce spectacle?
En fait, je m'appelle Mathéo Deluze, j'ai 13 ans. Moi, je joue le rôle du mari de Joséphine et je fais aussi le rôle du lutin qu'on voit à un moment donné dans le spectacle.
Bonjour, moi c'est Adrien Lurassi, 14 ans, et je suis dans le groupe 1 Théâtre, je joue le rôle de Christophe Colomb, l'espagnol mégalo sur les bords avec certaines tendances à prendre les gens de haut.
Comment s'est passé ce spectacle de cet après-midi?
Oh, c'était plutôt bien.
génial, c'est super de pouvoir s'exprimer devant les gens comme ça. Ça vous donne une confiance en vous. Super honnête, c'est vraiment une sensation géniale d'être dans les coulisses et puis de voir tout le monde s'agiter comme ça avec les micros. Moi, j'ai vraiment bien aimé.
Et vous le sentez comment ce soir ?
Ça devrait aller. Le public est différent, mais ça change en rien.
Je me dis que si même je foire un truc, on va pas me tuer pour ça. Alors, oui, de toute façon, les gens vont se marrer un coup. Ils savent bien qu'on n'est pas des pros. Oui. J'ai pas l'intention de foirer un truc entre guillemets. Lui non plus d'ailleurs.
Non non.
Enfin, finissons par Elisa et Clara qui ne sont pas sur scène mais qui contribuent au bon déroulement du spectacle.
Alors je m'appelle Elisa Gobreau, je suis en troisième et j'ai fait 3 ans de théâtre mais j'ai arrêté cette année et je suis à l'accueil aujourd'hui.
Bonjour, je m'appelle Clara Vesler, je suis en troisième 2, j'ai jamais fait de théâtre et je suis à l'accueil.
Quel est votre rôle dans le spectacle ?
Donc on est à l'accueil de la salle et on accueille les gens et on leur demande leur ticket et on met un signe sur le ticket qui montre qu'ils ont été présents.
Ok, bah merci d'avoir été attentif jusque là et merci aussi aux personnes qui ont bien voulu répondre à mes questions et merci aussi à ceux qui n'ont pas voulu être interviewés. Et vous l'équipe, vous en pensez quoi de ce spectacle ?
Moi, je trouve que le spectacle était vraiment bien et c'était bien accordé avec la chorale.
Moi, j'ai adoré que la chorale a créé des chansons comme Titanic Allo.
Alors, moi, j'ai adoré.
Pas grave, Titouan. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce spectacle. Déjà, que les spectacles précédents étaient superbes. Celui-là était encore mieux. Je ne sais pas comment ils ont fait pour améliorer encore une fois la qualité des spectacles de fin d'année. Le choix des musiques par rapport au théâtre était incroyable. La prestation de la chorale, extrêmement dynamique, extrêmement puissante, enfin, incroyable. Les répliques, extrêmement bien apprises, extrêmement bien jouées. Le choix des personnages par rapport aux personnalités de chacun était aussi, je pense, très judicieux de la part de Madame Imbleau et de Madame Bogard là-dessus. Donc, félicitations à tout le monde pour ce spectacle de fin d'année juste fou. Pour mon dernier spectacle de fin d'année que je verrai au collège, c'était franchement le meilleur de ceux que j'ai vus. Donc vraiment bravo et merci à vous tous. Si vous écoutez la radio, bien sûr.
S-School Radio.
Tout de suite, Titouan va nous présenter la pause musicale qui va avoir lieu juste après Crystal by Jizz. Ou Jizz, je sais pas.
Jizz est un musicien ukrainien. Son style de musique est le style dance. Nous allons écouter Crystal. J'espère que vous allez apprécier.
Thank you.
radio, la radio qui vibre sur les réseaux sociaux.
Durant cette deuxième partie d'émission, nous aurons les interviews de Madame Coquilla, l'interview d'un journaliste national qui est sur France Inter, Léo Teicher, et l'interview de Monsieur Morin, le directeur du CPE de Vittel. Nous commençons par Paul, qui va nous faire l'interview de Madame Coquilla, professeure d'histoire-géographie au collège.
Coucou tout le monde, c'est votre cher Paul. Me revoilà pour ma chronique sur les profs du collège. J'ai interrogé Madame Coquilla, professeure d'histoire-géographie, pour en savoir un peu plus sur elle. Tout d'abord, Madame Coquilla nous explique pourquoi elle est devenue professeure.
Alors au départ, je n'avais pas de motivation pour exercer ce métier parce que jusque quand j'ai commencé mes études d'histoire, il y avait une chose dont j'étais certaine, c'est que je ne serais jamais prof. Comme quoi on peut changer d'avis. Et puis comme il a bien fallu que je décide de faire quelque chose, mais je me suis dit pourquoi pas l'enseignement. Et me voilà.
Ensuite, elle nous informe sur son choix d'enseigner histoire-géographie.
Parce que j'aime beaucoup l'histoire, parce que j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire et que j'avais très envie de transmettre cette passion à des élèves.
Elle enseigne depuis un certain temps déjà, non ?
Depuis très longtemps, vous n'étiez pas née. On va dire plus de 20 ans.
On aura un peu plus de précision, c'est plus de 20 ans, point. Mais une petite question me trottine la tête, préfère-t-elle l'histoire ou la géographie ?
Alors, je préfère l'histoire, mais ce sont deux matières qui sont liées parce que la géographie souvent s'explique par l'histoire. Donc, on peut difficilement faire l'économie de l'une ou l'autre et que ces deux matières finalement avancent bien l'une avec l'autre.
Madame Coquilla est-elle allée dans d'autres collèges avant ? Et aime-t-elle le collège de Vittel ou pas du tout ?
Pas trop, parce que je suis bien ici. L'herbe est bien verte et les bâtiments et les salles sont bien claires, même si on est un peu chaud parfois.
Je confirme, à Vittel, l'herbe est bien verte et il fait très chaud dans les salles de classe. Bon, découvrons ce que Madame Coquilla pense des élèves à présent.
Alors, ça dépend des jours. les élèves aujourd'hui sont comme ceux d'hier, si ce n'est que peut-être ils sont un petit peu moins travailleurs que ceux d'hier. Mais sinon, ils sont toujours intéressants.
Finissons avec notre fameuse... question idiote.
Quelle a été la matière que vous détestiez étant au collège ?
Alors, je ne vais pas trop répondre parce que je ne veux pas me faire des ennemis parmi mes collègues. Maintenant, il y avait des matières qui me parlaient moins. Alors, j'aimais moins les mathématiques, les sciences. Mais bon, après, je ne les détestais pas non plus. Mais voilà, c'était moins mon truc.
D'accord. Merci.
Mais de rien.
Voilà, maintenant, on connaît un peu mieux Madame Coutier. À bien. Tout pour de nouvelles interviews, bye bye.
Merci Paul pour cette interview et surtout merci Paul parce que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus court qu'Éloine.
Escool Radio, la radio qui vibre sur les réseaux sociaux.
Bonjour Monsieur Teicher.
Vous avez 26 ans et vous êtes journaliste. Vous avez fait vos études à l'école supérieure de journalisme de Montpellier. En quoi consistent les études pour devenir journaliste ?
Tout à fait, c'est ça.
Alors, il demande en quoi consistent les études de journaliste.
Ah, j'ai pas... effectivement, alors, ça consiste à... En tout cas, si tu veux, ça finit par prendre beaucoup le train et beaucoup le bus, comme tu l'entends. C'est pour ça que j'ai pas bien entendu ta question. Mais en quoi consistent les études de journalisme, donc ? Ben, moi, j'ai appris à me servir d'un micro, j'ai appris à me servir d'un logiciel de montage, puisque moi, j'ai fait des études de journalisme radio, donc que pour me servir de micro, de logiciel de montage, etc. Apprendre à poser les bonnes questions, apprendre à faire le tri aussi dans les questions, comme quand vous avez dû préparer cette interview avec moi, quand on pose des questions à une personne, il faut savoir il faut savoir vers où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut raconter avec la personne qui va être interviewée, et donc il faut faire le tri dans les questions. C'est un peu tout ce que j'ai appris en fait.
Vous avez été lauréat de la Bourse Payot 2015. De quoi s'agit-il ?
Alors, la Bourse Payot, c'est une bourse qui est proposée à des étudiants en école de journalisme. Et donc, c'est un concours pour remporter un chèque de 8000 euros qui va te permettre, en fait, de payer un voyage pour pouvoir aller travailler dans des radios francophones publiques. C'est la bourse des radios francophones publiques. Donc, ça te permet d'aller travailler en Suisse, à la RTS, ça te permet d'aller travailler à la RTBF en Belgique et à Radio-Canada au Canada.
Après avoir obtenu vos diplômes, où avez-vous travaillé avant d'arriver à France Aterne ?
Alors en fait, si tu veux, moi, mon école de journalisme, elle s'est faite en apprentissage, donc en alternance. C'est quand tu travailles en même temps que tu vas à l'école. Donc tout ce que je te disais quand j'ai appris à me servir d'un micro, à me servir d'un logiciel de montage, à poser les bonnes questions, j'ai appris tout ça à l'école. J'allais à l'école pendant 2 semaines et après j'allais dans une radio pendant 2 mois. Et ça pendant 2 ans. 2 mois, 2 semaines, 2 mois, 2 semaines, 2 mois, 2 semaines, etc. Et donc j'ai travaillé à France Bleu, à Saint-Étienne, dans la Loire, à côté de Lyon. J'ai travaillé également à France Bleu, à Clermont-Ferrand, en Auvergne. J'ai travaillé à France Bleu, à Caen, en Normandie, et un petit peu à France Inter. Et ça pendant les 2 années de mon apprentissage.
Mais c'est pas trop dur de travailler dans la radio, puis aussi faire ses études en même temps. C'est pas un peu dur ?
Ben justement, c'est comme ça que tu apprends le mieux. C'est comme le boulanger qui l'apprenti en pâtisserie, en boulangerie. Il va apprendre dans une boulangerie, il va apprendre à savoir faire la bonne taille des baguettes et la bonne cuisson. Et ben moi, j'ai appris dans une radio avec des journalistes professionnels qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'apprendre un peu mieux, un peu plus vite. Je faisais, c'est pas plus compliqué, c'est même plus facile, je dirais.
Bizarre. Quelle est la spécificité du travail de journaliste radio par rapport à un autre média ? Pourquoi avoir choisi ce métier, ce média ?
J'ai choisi parce que j'ai toujours été intéressé par le journalisme. Et bizarrement, ça a été plus facile d'entrer plus rapidement, de faire mes premières gammes dans des radios. À Nancy, y a pas mal, et dans plein de villes, que ce soit dans les grandes villes ou plus petites, à la campagne, il y a souvent des radios associatives, alors qu'il y a moins de télé associatives, il y a moins de journaux associatifs. Par contre, il y a plein de radios associatives, et donc j'ai travaillé à Fadjet en tant que bénévole, une petite radio
Florent,
que vous devez bien connaître, voilà. Alors, juste un petit peu avant que Florent travaille à Fadjet, moi aussi j'y suis passé. Et donc, ça m'a plu et j'ai voulu continuer à travailler dans la radio. Et je dirais que la spécificité de la radio par rapport aux autres médias, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, juste un micro, et c'est tout, et ça va vite. Alors que pour la télé, il faut une caméra, il faut un micro, il faut de la lumière, il faut après faire du montage du son et de la vidéo avant que ça passe à la télé. Pour le papier, il faut une photo, il faut une imprimante. Alors que la radio, il suffit d'ouvrir dans un micro et on parle.
Forcément, c'est plus cher.
Voilà.
Êtes-vous un journaliste spécialisé sur un thème précis ?
Pas du tout. On nous apprend en fait à faire, quand on est jeune journaliste, moi j'ai 26 ans, on nous apprend à faire, à travailler, à être capable de traiter de n'importe quel sujet. Et donc, si tu veux, quand je travaille dans des France Bleu, le matin, je peux aller faire l'entraînement de l'AS Saint-Étienne. En début d'après-midi, je vais aller rencontrer le maire de Saint-Étienne pour parler de politique. Et en fin de soirée, peut-être qu'il va y avoir malheureusement un accident dont on va devoir parler. Et donc voilà, je peux faire du sport, de la politique, de l'économie. Le soir, du fait divers, on apprend à faire tout. Et je fais du reportage, je fais de la présentation. Ce soir, je vais travailler à France Info. Là, je suis en train de prendre le train. Donc lundi dernier, j'ai fait du reportage. Ce soir, je vais présenter le 20h de France Info. On fait tout. On est de plus en plus, en tant que journaliste, on est des hommes orchestres.
Mais ça fait beaucoup quand même.
Ça te permet comment... Alors attends, je vais laisser finir la dame de la SNCF parler. Finir de parler. Parce qu'on n'entend rien. Je vais peut-être sortir là. Ça fait beaucoup, mais c'est pas... C'est... Ça te permet de finalement savoir un peu comment... Si tu fais tous les métiers dans une radio, pas tous en même temps, mais d'un jour à l'autre, eh ben, ça te permet de mieux savoir comment fonctionne, comment travaillent tes collègues et être un peu plus... de comprendre aussi leurs difficultés et puis de se soutenir, de tous travailler ensemble, en fait.
Quels sont les sujets que vous préférez traiter? Comment trouvez-vous les infos?
Malheureusement, on m'a pas appris à préférer des sujets.
Ah, pas de bol.
Comme je viens de te dire, je fais de tout. Du sport, du politique, de l'économie. Et donc, j'ai pas appris à préférer tel ou tel sujet pour le moment. Ce que j'aime bien, c'est...
Et comment quand tu trouves... Léo, comment tu trouves les infos? Tu vas tout chercher sur place?
Par exemple... Non, je vais pas tout chercher sur place. Je sais pas quel exemple précis te donner, mais en gros, avant d'aller sur place, je vais essayer de lire ce que tous les confrères ont pu déjà écrire dessus, essayer de me documenter sur Internet, trouver des articles de presse, donc que ce soit en papier ou Internet, essayer de me renseigner auprès d'autres personnes.
Donc en gros, tu fais une préparation déjà avant d'aller sur place, pouvoir recueillir des informations encore plus précises.
Ouais, je vais préparer mes questions, je vais bien me renseigner. Il vaut toujours mieux connaître bien le sujet sur lequel tu vas aller poser tes questions avant de te déplacer, parce que sinon tu vas pas revenir avec les bonnes infos.
Quel conseil donneriez-vous à des futurs journalistes, comme ceux de la radio, par exemple?
Quel conseil pour quoi faire?
Bah, admettons que tu sois en train de parler avec des collégiens et que peut-être que plus tard il va y faire journaliste, tu leur dirais quoi?
Bah, je leur dirais de garder cette envie, cette motivation, d'être curieux, de lire des journaux, de lire, de regarder des documentaires, de regarder des journaux à la télé, d'écouter la radio, toutes les... Après, on va penser tout de suite que je vous parle d'écouter France Inter, d'écouter Le Monde, d'écouter des choses comme ça, mais il y a plein de petits journaux qui sont beaucoup plus intéressants et qui peuvent vous plaire. Documentez-vous, lisez beaucoup, posez des questions, allez frapper à des portes pour demander si vous pouvez observer comment travaillent les journalistes, que vous aimeriez bien comprendre comment se fait ce métier. Aller dans les radios, dans les journaux, aller demander ça, montrer pour voir un peu plus d'un peu plus près comment ça fonctionne.
Merci Monsieur Tichard.
Si vous aussi vous voulez vous faire entendre, rejoignez la S-School Radio.
Pour terminer lors de cette seconde partie de l'émission, l'interview de Monsieur Morin, le directeur du CPE de Vittel.
Monsieur Morin, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes le directeur du centre de préparation omnisport de CPO de Vittel et vous êtes le responsable de l'organisation du Tour de France à Vittel. Vous nous faites l'honneur aujourd'hui d'être présent pour une interview dans notre studio et nous vous en remercions chaleureusement. Moi, Éloane, je suis accompagné de Heather et Lénaïk. Pour vous poser quelques questions, je laisse la parole à Lénaïk.
Bonjour, monsieur Morin.
Bonjour, Lénaïk.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier de directeur du CPO de Vittel?
Eh bien, écoute, mon travail, il consiste à organiser l'ensemble des équipements sportifs, permettre à chacun de pouvoir en profiter, que ce soit au niveau du temps scolaire, hein, comme vous pouvez en profiter durant toute l'année, avec les associations et également avec les stages et les compétitions. J'organise également avec mes collègues l'organisation du temps de travail de l'ensemble des agents, puisque le service que je dirige est composé d'environ d'une quarantaine de personnes. Donc voilà, c'est tout au long de l'année donc cette articulation que nous faisons sur les installations sportives.
J'ai une deuxième question. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel avant de devenir directeur du CPO de Vittel?
Alors, je te dirais qu'il est un peu double ce parcours. Il est professionnel, mais au travers des études, eh bien, j'ai passé un bac scientifique, ensuite une maîtrise en management du sport. Mais en parallèle, j'ai eu aussi une carrière de nageur de haut niveau, ce qui m'a permis d'acquérir un certain nombre de connaissances et de compétences en parallèle donc du cursus universitaire. Et d'un point de vue professionnel, bien ça se résume à la direction du centre de préparation omnisports, puisque c'est pour l'instant mon unique emploi.
D'accord, je reprends la parole. Monsieur Morin, vous êtes en charge de l'organisation du Tour de France à Vittel. Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet ?
Officiellement, on travaille donc sur ce projet depuis le mois d'octobre dernier, le 18 octobre de 2016 très précisément, puisque c'est la date à laquelle le Tour de France a officiellement présenté le parcours du Tour de France. Mais nous avons travaillé sur ce projet depuis beaucoup plus longtemps, quasiment depuis le mois de juillet donc 2016. Mais nous le faisions de façon discrète, puisque nous n'avions pas le droit de dire que nous étions au courant donc de l'attribution de l'étape du Tour de France sur Vittel. Donc ça va faire quasiment un an que nous préparons cet événement, que ce soit sur les aspects logistiques, techniques, mais également sur des réflexions autour du Tour de France avec des animations.
Bonjour Monsieur Morin, comment avez-vous fait pour que Vittel accueille le Tour de France cette année ?
Eh bien, on a posé candidature auprès de la direction donc du Tour de France, Amaury Sport Organisation, qui en est le propriétaire. Pourquoi nous avons candidaté ? Parce que nous avions vu qu'en 2017, donc cette année, le Tour de France partait de Düsseldorf, donc de l'Allemagne, et que comme cela faisait un certain temps que le Tour de France n'était pas passé dans l'Est, et nous avons pensé qu'il y avait une très très grande probabilité que le parcours qui était en train d'être dessiné pouvait passer par la Lorraine, par les Vosges. Donc nous avons postulé et nous avons eu la chance d'être retenus.
Nestlé est particulièrement l'eau de Vittel et le partenaire majeur du Tour de France depuis plusieurs années. Mmh. Cela a-t-il facilité les négociations pour que Vittel accueille le Tour de France à Vittel ?
Alors, facilité, ça je peux pas trop le dire, hein, puisque on n'a pas été dans le secret de la décision. Tout simplement, on ne peut pas nier que le fait que Vittel, donc en tant que partenaire, un des partenaires principaux du Tour de France, donc ne nous a pas aidés. Je dirais simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que le Tour de France, le parcours, passe par la Lorraine, et le fait que Vittel soit partenaire, c'est sûr et certain que ça avait pu avoir un petit coup de pouce. Mais la candidature de Vittel, si elle a été retenue, c'est surtout parce que nous avons été en capacité d'accueillir le Tour de France. Capacité logistique, technique, l'arrivée pouvait se faire à Vittel, le départ également. Il y a un certain nombre d'hôtels qui permettent d'accueillir la caravane du Tour, qui représente pas loin de 4000 personnes. Donc c'est surtout ces facteurs-là qui ont fait que Vittel a été choisi. Mais encore une fois, disons plutôt que Nestlé est bien content, je dirais peut-être satisfaite que la ville ait postulé et été retenue, parce que ça leur permet aussi d'avoir un focus un peu plus fort sur le Tour de France.
Quel est le coût d'un tel événement pour la ville ?
Alors, le coût, c'est très clair. Hein, il y a déjà ce qu'on appelle un droit d'entrée, c'est-à-dire que pour pouvoir, lorsqu'on candidate auprès d'Amaury Sport Organisation, il y a deux étapes. La première, c'est d'être retenu, et ensuite, il faut payer ce qu'on appelle un droit d'entrée. Pour pouvoir recevoir le tour. Et ce ticket d'entrée, il est de 210 000 euros. hein, ce qui représente une somme assez conséquente, puisque 210 000 euros, enfin ces 210 000 euros ne permettent simplement d'accueillir le tour. C'est-à-dire que l'organisateur du Tour de France utilise cet argent pour mettre en place toute sa logistique au travers des forces de l'ordre, des barrières Vauban qu'ils peuvent mettre en place, de toute la partie relations publiques qu'il y a autour du Tour de France, le fait de mettre en place des moyens de communication, de promotion, enfin tout cet argent-là est utilisé. Mais après, la ville doit, elle, également dépenser une certaine somme d'argent pour des achats ou des locations. Par exemple, pour vous dire simplement, en plus des barrières Vauban de l'organisateur du Tour de France, nous avons dû louer près de 6 km de barrières Vauban. Ces 6 km, c'est une somme avoisinant les 20 000 euros qui ont dû être nécessaires pour la location. Donc voilà. Donc le ticket d'entrée de 110 000 euros et on arrivera à la fin sur un budget global de 300 000 euros à peu près, tout compris.
D'accord. Vous avez un emploi du temps très chargé, mais travaillez-vous à plein temps sur le Tour de France ?
Actuellement, oui. C'est actuellement, je dirais que les journées de 24 heures ne suffisent pas pour, d'une part, assurer l'organisation, la préparation du Tour de France. Mais faut pas oublier que derrière, vous en avez parlé en préambule, c'est que j'ai un service à faire fonctionner. Et donc, même si j'ai bien entendu des collaborateurs qui m'accompagnent, il est nécessaire que je supervise l'ensemble du service qui doit continuer à tourner. Donc, bien souvent, ma journée, c'est à peu près une matinée. J'essaye de consacrer une matinée au niveau du service, l'après-midi au niveau du Tour de France et un peu la nuit également.
Vittel est une ville étape, c'est-à-dire qu'elle est à la fois arrivée d'une étape et départ de la suivante. Est-ce deux fois plus difficile à organiser ?
Non, c'est trois fois plus difficile. Pourquoi trois fois ? Tout simplement parce que, comme tu l'as bien dit, c'est deux journées. Donc c'est une journée pleine sur l'arrivée, c'est une journée pleine quasiment sur le départ. Mais on a également une nuit entre les deux. Et toute la nuit, en fait, est mise à profit pour transformer la configuration arrivée en départ. Donc ça veut dire qu'il y a trois temps. Donc c'est un gros travail sur l'arrivée, un gros travail sur le départ, mais c'est aussi un gros travail de cohésion entre les équipes d'arrivée et les équipes de départ. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est trois fois plus dur, si je puis dire. C'est pour cela aussi qu'il y a de moins en moins de villes étapes, ce qu'on appelle les villes étapes, c'est-à-dire arrivée et départ. Il y a plutôt des villes arrivées et des villes départ. Mais par exemple, sur le Tour de France de 2017, sur les 20 et une étape, il n'y en a que 5 qui sont ville, arrivée et départ.
On imagine beaucoup de personnes, mais savez-vous combien de personnes sont attendues à Vittel pour cet événement ?
Si on se réfère à 2009, l'édition que j'ai également coordonnée, on était à peu près sur 100, suivant les estimations, entre 100 et 110 000 personnes sur les deux jours. À peu près 60-65 000 sur l'arrivée et entre 40-45 000 sur le départ.
Quelles animations sont prévues en plus de l'arrivée et du départ des coureurs ?
Alors c'est surtout des animations d'accompagnement, ce qu'on appelle d'accompagnement, à savoir que les personnes qui viennent à Vittel viennent spécialement pour le Tour de France, donc il n'y a pas grand chose à rajouter. Il y a la caravane publicitaire, il y a les coureurs, c'est déjà assez diversifié. On mettra des groupes musicaux plutôt en fin de journée le mardi, faire en sorte que les personnes restent un petit peu, faire éviter que tout de suite après l'arrivée, qui va se situer vers 18h, que les personnes reprennent leur voiture et repartent chez elles. Donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les bars, les restaurants, toutes ces zones soient occupées. Et donc pour ce faire, il y aura des concerts au cœur de ville qui seront organisés. Concernant le mercredi, il y aura une animation vélo avec un vététiste trial, Nicolas Vuermo, qui est un ancien grand champion de trial vélo et qui fera des démonstrations, également des initiations pour les plus jeunes, comme vous, mais également notamment pour les entre 4-6 ans, 8 ans, 10 ans. Et il y aura de nouveau un DJ également qui interviendra. Et puis vers 15h30, après le départ du tour, il y aura le tirage au sort de la tombola caritative qui sera organisé avec notamment une voiture à gagner.
Quels sont les moyens de sécurité mis en place pour assurer la sécurité des publics et du coureur, enfin des coureurs surtout.
Alors cela se décompose d'une part en deux temps, mais surtout en deux aspects. La sécurité des coureurs est totalement du ressort de l'organisateur du Tour de France, donc d'Amaury Sport Organisation. Donc là, quelque part, on n'a quasiment rien à faire du tout. C'est eux ils sont autonomes par rapport à ça. C'est de leur ressort, c'est de leur responsabilité par rapport à la Fédération française, mais surtout par rapport à la Fédération internationale de cyclisme. Ensuite, il y a la sécurité des spectateurs. Là, c'est pleinement de notre ressort avec les services de l'État et notamment de la préfecture. Et dans ce cadre-là, c'est à peu près pas loin de 200 personnes qui sont nécessaires pour assurer la sécurité, on va dire, routière, si je puis dire, ou permettre d'assurer des ouvertures, des accès sur le parcours du Tour de France, permettre de passer, par exemple, d'un côté à un autre au niveau de la route. Mais après, il y a toute la sécurité concernant, malheureusement, les attentats. C'est plus de 90 personnes qui seront mobilisées tout au long du parcours sur Vittel pour contrôler visuellement s'il n'y a pas de personnes qui seraient susceptibles de venir gâcher cette fête populaire. Et s'il y avait, devait y avoir des suspicions, eh bien entendu, on aurait à informer les services de l'ordre qui prendraient toutes les dispositions pour vérifier qu'il n'y a pas de problème.
J'ai juste une dernière question. De quelle heure à quelle heure seront bouchées les routes?
Alors, sur Vittel, c'est une bonne partie de la journée du mardi, à savoir, grosso modo, à partir de 5h du matin jusqu'à 20h, 21h. 21h. Alors, ces routes concerne spécifiquement la zone du Tour de France. Toutes les autres rues de Vittel se resteront ouvertes toute la journée. Et le lendemain, on va être plutôt sur un créneau de 6h jusqu'à 13h, 13h30. On va plutôt dire 13h30, puisque les coureurs qui seront les derniers à partir donc quitteront Vittel vers 13h. Et donc là, pareil, c'est uniquement la zone Tour de France qui est concernée. Donc ça va amener quelques petites contraintes. Mais malgré tout, bien entendu, Vittel reste accessible, où on peut sortir de Vittel avec quelques petits aménagements.
Maintenant, on va parler des autres événements. Donc la première question est, après le Tour de France, y a-t-il d'autres grands événements sportifs prévus à Vittel?
Bien oui, il y en a quelques-uns. Alors, bien entendu, pas de l'ampleur du Tour de France, hein, puisque le Tour de France, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le deuxième événement mondial qui est organisé. C'est même le premier événement mondial récurrent, ce qu'on appelle récurrent, c'est-à-dire parce qu'il a lieu tous les ans, mais c'est le deuxième événement mondial après les Jeux Olympiques. Et puis après, on peut mettre la Coupe du Monde de football, bien entendu, avec. Mais à Vittel, donc, il y aura le tournoi de basket qui sera organisé le premier week-end de septembre, avec notamment toujours la participation du SLUC Nancy Basket. Et puis, mais juste avant et juste après le Tour de France, le 8 juillet, il y aura un match de préparation avec le Racing Club de Strasbourg en football qui jouera contre un club de D1 suisse, le FC Lucerne. Donc Strasbourg qui remonte en Ligue 1. Donc ce sont les deux événements, oui, qui vont suivre le Tour de France.
Est-ce que les sportifs de haut niveau viennent toujours s'entraîner à Vittel?
Il y en a toujours. Ce ne sont plus les mêmes. Ce ne sont plus les mêmes disciplines. C'est sûr qu'on voit un peu moins le basket, les équipes de France de basket et de handball. Mais par contre, on a d'autres disciplines qui viennent. Par exemple, à l'heure actuelle, nous avons les équipes de France masculine et féminine de waterpolo. C'est une nouveauté. On accueille Bob Tari, hein, l'athlète international qui fait du 3000 steeple et maintenant qui se met sur le marathon. Et on a toujours les équipes de France de triathlon, de tennis de table, d'haltérophilie, de tir à l'arc qui viennent très régulièrement.
Pourquoi les équipes et sportifs de haut niveau choisissent-ils de venir à Vittel? Parce que c'est calme, il y a des belles infrastructures ou le côté de la ville verte?
C'est les trois. C'est un mixte des trois, à savoir que, ben oui, il y a les infrastructures qui leur permettent de s'entraîner dans de très bonnes conditions. Et en même temps, comme tu l'as signalé, au moins ils ne sont pas embêtés, ils ne perdent pas de temps dans des bouchons, par exemple, pour rallier l'hôtel aux équipements sportifs. Et qui dit pas de bouchons, bah, qui dit également ce cadre de vie dans un environnement qui est vraiment sain. Donc, ce sont les trois à la fois qui font que Vittel est très recherché pour la préparation sportive.
Des questions?
Si, une toute petite. Savez-vous à quelle heure passera la caravane du Tour?
Alors, la caravane, elle arrivera à Vittel le 4 juillet vers 15h. Et le mercredi matin, elle partira de Vittel à partir de 11h.
Eh bien, merci Monsieur Morin pour toutes vos réponses à nos questions. Nous vous souhaitons une bonne journée. Et je vous rappelle également que nous serons en direct au Tour de France à Vittel le mardi 4 et le mercredi 5 juillet 2017 depuis la mairie où nous ferons bien évidemment des interviews.
Esco Radio.
Pour terminer cette émission en beauté, je vous propose une petite pause musicale, Color by Poki Digi, qui va nous être présentée tout de suite par Titouan.
Poki Digi est un musicien anglais. Il a enregistré deux albums, Free Download et Right Ring. Son genre de musique est dance. Nous allons écouter Color de Poki Digi. J'espère que vous allez apprécier.
Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette 43e hebdo de toute l'histoire de la School Radio. Et puis aussi, merci à tous les chroniqueurs et aux journalistes d'aujourd'hui. Merci aussi à tous ceux qui ont bien voulu répondre à nos questions, que ce soit pour le spectacle, pour que Madame Coquillat, le journaliste Léo Techer et Monsieur Morin. Et puis, merci aussi à vous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur le site. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.
Merci à tous.
Bye.